Les nuits de France Culture, la première nuit consacrée à Ernest Hemingway, se poursuit en compagnie de Gérard de Cortanze, écrivain mais aussi critique, traducteur, éditeur. Pour tenter d'éclairer la personnalité d'Hemingway, figure dans les archives de cette nuit le portrait de l'une des femmes qu'il a aimées, Martha Gellhorn, la seule de ses quatre épouses qui l'ait quittée, celle qui ne voulait pas être une note de bas de page dans la vie de quelqu'un d'autre, celle qui aura existé ô combien indépendamment et loin de lui. Grand reporter, journaliste, légendaire elle aussi, mais pas très connue en France, Martha Gellhorn n'aura, elle, jamais été reconnue pour ses nouvelles et ses romans. Dans votre livre, vous rappelez ce qu'elle a écrit à propos d'Hemingway dans la guerre d'Espagne, qu'elle-même couvrait comme reporter. C'est sans doute le seul moment de sa vie où il ne se sentit pas être la chose la plus importante au monde. Il s'intéressait vraiment, au plus profond de lui-même, à la République espagnole et à la guerre. Sans cela, je crois que je n'aurais jamais pu tomber amoureuse de lui. En quelques mots, Martha Gellhorn efface le personnage Hemingway en nous révélant le visage de l'écrivain dans toute sa sincérité, et c'est dans la guerre d'Espagne que ce visage apparaît, comme si cette guerre avait été le moment de vérité de Hemingway, Gérard de Cortanze.
Oui, mais ce qu'elle dit sur l'intérêt qu'Hemingway porte aux autres avait déjà été remarqué lors de son séjour à Paris. Lors de son séjour à Paris, il y a un certain nombre d'écrivains qui ont fait remarquer qu'il les aidait en fait. C'est-à-dire qu'il était à Paris, il commençait à devenir à être écrivain, enfin à s'installer, mais il avait une attention aux autres écrivains. Il les aidait, il leur trouvait du travail, et il les mettait en relation avec tel ou tel personnage important du monde de la culture. Donc je crois que ce qu'elle note là sur l'Espagne, alors c'est vrai qu'il y avait un intérêt pour la guerre d'Espagne, pour l'engagement, mais c'est quelqu'un qui était, je crois, alors c'est pas antinomique, hein, à la fois il avait sans doute une sorte, pour simplifier, une sorte d'ego surdimensionné, mais je crois qu'il y avait vraiment un intérêt pour les autres. Et ça se ressent dans sa littérature. C'est ça qui en fait une littérature qui est riche, c'est-à-dire qu'il ne se met pas uniquement en scène, on sent qu'il est intéressé par le genre humain.
Un grand observateur.
Moi je trouve, oui. Et puis c'est quelque chose, oui, ils se sont concernés par le genre humain. C'est ça qui donne toute la matière aussi de son œuvre, qui la rend attachante en quelque sorte. C'est une œuvre qui est puissante, mais qui en même temps est attachante.
Quatre mariages et bien d'autres amours, beaucoup d'autres femmes dans sa vie. Oui. Mais que diriez-vous de la présence féminine dans ses nouvelles et ses romans ?
Elle est très très importante. Il y a toujours beaucoup de femmes dans toutes ses nouvelles, dans tous ses romans, et qui jouent toujours des rôles fondamentaux dans la narration. C'est jamais une pièce rapportée. Donc ça prouve là encore que il y a une forme de virilité chez Hemingway. Hein. C'est un être viril, mais il a un rapport aux femmes qui n'est pas machiste.
Ce n'est pas un macho misogyne, pas du tout.
Il n'est absolument pas misogyne, et c'est vraiment, comment dire, tout à fait injuste et faux de dire que c'est quelqu'un de misogyne. Il faut lire son œuvre pour s'apercevoir qu'il n'est pas misogyne.
D'ailleurs, dans Pour qui sonne le glas, la combattante la plus acharnée, c'est une femme.
Mais bien sûr, donc il y a des magnifiques portraits de femmes. Ce ne sont pas du tout, comment dire, ce sont pas des personnages secondaires dans ces romans. C'est bien souvent des personnages qui font que, d'abord, qui font changer les hommes, qui font avancer la narration. Ils ne sont pas du tout des choses mises à côté de l'homme qui serait le personnage principal. D'ailleurs, si on prend sa première femme, hein, qui est Adlai Richardson, il se marie avec elle en 21, ils ont un fils, ils divorcent en 24, mais pendant toute sa vie, il va en parler, et de façon extrêmement tendre, dans Paris est une fête. Alors, Paris est une fête, vous connaissez l'histoire du manuscrit, c'est assez... Alors, on raconte souvent que sa dernière femme, c'est-à-dire Mary Welsh, retournant à Cuba, retrouve dans le coffre d'une banque le manuscrit de voilà. Bon, mais en fait, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que l'histoire, c'est qu'ils vont tous les deux lors d'un voyage au Ritz. On redécouvre à cette occasion deux malles qu'ils emportent toutes les deux après à Cuba. Et dans ces malles, il y a quelques notes qui ont été prises par Hemingway alors qu'il était à Paris dans les années 20. Et c'est à partir de là qu'il va écrire, mais pratiquement dans la totalité de Paris est une fête. C'est pas du tout un manuscrit qu'il a repris. Il a écrit 90% de Paris est une fête, comment dire, bien plus tard, dans les années, donc, à la fin des années 50, début des années 60, à Cuba. Et là, il retrouve le personnage il fait de sa femme, de sa première femme, un personnage de roman. Et c'est un personnage absolument magnifique. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qu'il n'a jamais oublié. Et il en donne une. Alors, c'est un peu magnifié parce qu'il l'a trompé, parce que ça se passait plus ou moins bien entre eux. Mais, il a un regard sur cette femme qui est un regard qui est très beau, en fait. Et donc c'est cette image qu'il a poursuivie toute sa vie, même s'il a eu d'autres femmes, des amantes, etc., etc.
Vous faites remarquer que l'essentiel de son œuvre n'a pas pour décor l'Amérique, qu'on ne trouve pas trace, à quelques exceptions près, de l'Ouest américain ou d'Hollywood dans ses livres.
Bah, c'est absolument vrai. C'est-à-dire que l'Espagne, l'Europe avec la France et l'Italie, l'Afrique, comment dire, il y a pratiquement aucune page d'Hemingway.
Des nouvelles, Nick Adams.
Oui, mais c'est son enfance.
Oui, oui.
C'est-à-dire, je dirais que c'est presque pas l'Amérique. C'est-à-dire, c'est un lieu d'enfance près de Chicago, avec les lacs, avec les forêts, etc. Mais c'est pas l'Amérique, en fait. C'est-à-dire New York, tout ça, ça l'intéresse pas du tout. Et ces grandes pages, c'est des pages où il décrit l'Afrique, il décrit l'Espagne, il décrit l'Italie, et il décrit la France et l'Europe.
On évoque souvent à propos de Hemingway une quête du Sud. Nous entendrons d'ailleurs Philippe Solers dire « Il n'a jamais cessé de plaider pour un émerveillement du Sud ».
Oui, ben alors, Cuba, c'est le Sud. C'est-à-dire d'ailleurs, quand il arrive à Key West, il est immédiatement fasciné par les odeurs, par les couleurs, par la nourriture, par la façon de vivre, par une espèce de chaleur, enfin de luxuriance. Là encore, vous allez dire, je reviens à Frida Kahlo, mais Trotsky, quand il arrive à Mexico, hein, alors, il vient évidemment de la Russie, mais surtout de tout un périple dans toute l'Europe, dans le monde entier, puisqu'il a été poursuivi pendant toute sa vie. Mais, et là, il le dit, il l'écrit, il arrive au paradis. Et pourquoi c'est le paradis? Parce qu'il y a une luxuriance dans les couleurs, dans les odeurs, dans la façon d'être, dans la nourriture, dans les plats. Et c'est vrai, quand vous arrivez à Cuba, mais c'est le sud du sud, Cuba. Il fait beau, il fait chaud. L'alcool est merveilleux, les hommes et les femmes sont magnifiques, enfin, il y a une sorte de joie de vivre permanente. Je ne parle pas des régimes politiques, choses comme ça, mais je parle du lieu, de la géographie. Évidemment qu'il recherche, il a tout à fait raison, Philippe Solers, mais Philippe Solers a souvent raison.
En 1997, vous avez écrit donc Hemingway à Cuba, qui est ce qu'il est convenu d'appeler un beau livre, mais qui a aussi son édition en poche. Peut-on dire que peut-être plus que le Michigan, plus que Paris et que l'Espagne, Cuba est le lieu de l'œuvre d'Hemingway?
Tout à fait. Il a écrit... Écoutez, il arrive à Cuba, à Key West en 28-29. Il achète sa ferme en 39-40. Finca Vieja, donc, est à 12-13 kilomètres de la Havane.
C'est d'ailleurs Martha Gellhorn qui a trouvé cette maison.
C'est absolument. Mmh. C'est une drôle d'histoire, parce que c'est elle qui la trouve, c'est elle qui fait construire une piscine, et une fois que tout ça est fait, il divorce. Bon, mais Il a écrit vraiment la très très grande majorité de son œuvre à Cuba, puisqu'il arrive dans les années 20 et puis il y reste pratiquement jusqu'à la fin de sa vie. C'est-à-dire il vit plus de 30 ans à Cuba. Tous ces grands livres, on peut vous en donner la liste, hein, En avoir ou pas, La cinquième colonne, Pour qui sonne le glas, Par-delà la rivière et sous les arbres, Le vieil homme et la mer, ses écrits sur la corrida, c'est une quantité incroyable d'articles. Tout ça, ce sont des textes qui sont écrits à Cuba. Et moi, je pense vraiment qu'on ne peut pas comprendre l'œuvre d'Hemingway si on ne la replace pas dans le contexte cubain. C'est tellement cubain. Il y a des choses qui ne l'auraient jamais écrites s'il n'avait pas été à Cuba. Et puis, il y a des pages entières. Il y a des pages entières qui sont consacrées à Cuba, au paysage, à la mer, à la pêche, aux plages, à la nourriture, aux personnes, aux gens. Enfin, donc c'est une œuvre profondément cubaine.
Et justement, en quoi cette île, ce pays, s'accorde-t-il avec lui, avec la personne et l'écrivain ?
Ben, deux choses. Il retrouve la liberté qu'il avait lorsqu'il était enfant. Et surtout, il est éloigné de tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire cette sorte de médiatisation à outrance, le puritanisme des États-Unis, la guerre en Europe. Il le dit d'ailleurs, c'est un havre de paix. Et ce qui est terrible, c'est que à certains moments, il est obligé de quitter ce havre de paix parce qu'en fait, la notoriété le rattrape. Par exemple, un jour, vous savez, il y avait un panneau à l'entrée de la Finca Viria qui indiquait en anglais et en espagnol, en gros, vous ne pouvez pas entrer ici si vous n'avez pas été invité. Bien. Un matin, il a bu ses whisky, il s'apprête à travailler, et il entend du bruit dans le jardin. Il y a à peu près 7-8 hectares autour comme ça, avec des alors faut imaginer, des avocats, des séibas, enfin toute une luxuriance absolument folle. Et il tombe nez à nez avec une vingtaine d'officiers de l'armée de l'air américaine. Alors il dit, mais enfin, qu'est-ce que vous foutez là, quoi? Ah, mais c'est parce qu'on vient de gagner un concours, c'est-à-dire les 20 meilleurs élèves de cette école avait une rencontre avec Hemingway. Mais seulement Hemingway n'avait pas été prévenu, et donc il les a foutus dehors à coups de fusil. Alors évidemment, à partir de là, article dans la presse, enfin il nous reçoit à coups de fusil, mais on peut le comprendre. Et à certains moments, il est tellement triste de ne plus être dans ce havre de paix qu'il va partir en Afrique. Il y a certains voyages qu'il effectue en Afrique parce qu'il se dit, bon, c'est plus possible, je ne peux même plus écrire, je ne suis plus tranquille. Donc je pars 5 mois en Afrique pour pouvoir continuer à travailler tranquillement. Un de ses soucis, c'est celle, la tranquillité, de pouvoir être tranquille. La Finca Viria était en permanence visitée par des journalistes, des acteurs de cinéma, des touristes. Enfin, ça devenait invivable à la fin.
À quoi ressemblent Cuba et la Havane quand Hemingway les découvre, c'est-à-dire à la fin des années 20?
À la fin des années 20, il y a un guide touristique qui est publié aux États-Unis à cette époque-là, destiné à ceux qui... Je vais vous lire le passage, ça va vous amuser, vous allez comprendre tout de suite. Voilà, c'est dans le guide général de la Havane. Et il y a une préface, et la préface est placée sous un médaillon du général Machado, hein, président de la République, et ce texte est destiné aux lecteurs nord-américains. L'île de Cuba, prolongement habituel et normal des États-Unis, est située entre le golfe du Mexique et les mers du sud de l'Amérique. Cette île jouit d'une position géographique privilégiée. Avec les portes de la Havane plus proches que nul autre de notre pays, l'île de Cuba, enrichie par les considérables capitaux américains attirés par ses merveilleuses ressources naturelles et par les conditions exceptionnelles résultant de la récente Grande Guerre en Europe, revêt à nos yeux un intérêt économique et social prépondérant. Son statut politique assuré par l'amendement Platt. L'amendement Platt, ça veut dire que les États-Unis, dès qu'il y a le moindre mouvement de population, la moindre grève, peuvent intervenir militairement. C'est ça l'amendement Platt. Donc, son statut politique assuré par l'amendement Platt lui confère cependant une indépendance politique totale, ce qui est absolument faux, parce que tout est mis en place par les États-Unis, matérialisé par un gouvernement souverain, totalement faux, mais n'en fait pas moins d'une certaine manière comme le prolongement naturel des côtes américaines. Les Américains trouveront à Cuba nombre de leurs compatriotes qui y jouent un rôle important dans les domaines agricoles et commerciaux, ainsi que des sports et des loisirs qui ne les dépiseront en rien. Aussi, des milliers de touristes de l'Union ont-ils déjà choisi les rivages cubains plutôt que les célèbres capitales et villes d'eau européennes. C'est-à-dire, en fait, c'est le prolongement donc naturel des États-Unis. Ça veut dire que toute la mafia est là, tout appartient aux États-Unis. Il y a 80% de la production économique qui vient des États-Unis. Le pétrole appartient aux États-Unis. À La Havane, il y a, qui n'est pas une ville immense, il y a 11 banques américaines. Tous les hôtels sont des hôtels, qui sont des bordels, des boîtes de passe. Frank Sinatra vient y chanter. Al Capone, il y a une chambre à l'année. Enfin, c'est vraiment... On dit aussi que c'est le bordel des États-Unis. C'est-à-dire que c'est un pays qui appartient aux États-Unis. Donc, lui arrive là. Mais ça ne lui plaît pas du tout, hein. D'où les problèmes qu'il va avoir lorsque Castro arrivera au pouvoir et qu'il ira embrasser le drapeau cubain en disant les Cubains, ce sont mes amis, je me sens par-dessus tout cubain, mais il ne faut pas oublier que lorsqu'il va quitter Cuba, c'est-à-dire en 60, il le quittera parce que la vie, évidemment, pour les Américains devient absolument impossible. C'est-à-dire lorsque Castro prend le pouvoir, tous les intérêts américains sont annihilés. Ce qui est intéressant aussi, c'est que Hemingway, dès le départ, avant que Castro ne prenne totalement le pouvoir, a lancé des espèces d'alerte à l'adresse des Américains en disant si vous ne négociez pas avec le nouveau pouvoir, vous allez livrer Cuba au communisme. Évidemment, les Américains ne veulent pas négocier et c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire que si les États-Unis et notamment après un célèbre discours de Castro aux Nations Unies, avait voulu un tant soit peu négocier avec Castro. Castro, n'était pas quelqu'un, de fondamentalement communiste pur et dur. C'est-à-dire que quand il s'est vu totalement abandonné, il s'est livré vraiment à l'Union soviétique, qui, elle, se foutait totalement de Cuba et des Cubains. Ce qu'elle voyait, c'est que ça faisait une sorte de plateforme juste en face de l'ennemi capitaliste qui était les Américains. D'où l'épisode des fusées. Mais tout ça, Hemingway l'avait absolument vu. Il avait prévenu, mais on n'a pas voulu l'écouter.
Justement, selon vous, pourquoi a-t-il quitté Cuba ? Par pur patriotisme américain, comme on l'a dit, ou parce qu'il craignait peut-être d'être pris entre deux feux, celui-là ?
Non, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est rendu compte que la vie, pour lui, comme tout Américain, devenait absolument impossible. C'était très clair dans sa tête. Il était très proche, non pas du gouvernement cubain ou de Fidel Castro, ça c'est une absurdité quand on l'a rapproché de Castro, que l'image d'Hemingway a été utilisé par la suite par Castro et son pouvoir, ça c'est certain. Mais ça n'a jamais été quelqu'un de proche de Castro. Lui, ce qu'il aimait, et c'est ça qu'il a tout de suite aimé à Cuba, c'est la proximité avec des gens simples, c'est-à-dire c'était les pêcheurs avec lesquels il allait pêcher, les paysans, les ouvriers, c'est ça qu'il aimait à Cuba. Et une relative, On ne savait pas qui c'était au départ. Après, on savait bien que c'était Hemingway. Mais c'était pas important, c'était pas des journalistes, c'était pas les médias, c'était le pêcheur du coin avec qui il s'entendait, et avec qui il allait partir entre 4 jours en mer. Donc c'est ça qu'il aimait à Cuba. Et donc quand il quitte Cuba, c'est parce qu'il se rend compte que sa vie ne va plus être possible. Cette vie qu'il aimait tant, ça sera plus possible. Mais c'est pas vrai, c'est pas patriotisme, ça je crois pas du tout. C'est pas parce qu'il a peur d'être pris entre deux feux, c'est tout simplement parce que la vie devient impossible pour un Américain.
Et que reste-t-il d'Hemingway dans la Finca Viria, de ce que fut son décor, son cadre de vie?
Vous savez, il est parti un peu précipitamment parce que la situation devenait compliquée. Il s'était dit je vais passer par l'Espagne, je vais assister à 3-4 corridas et je reviendrai. Il a eu un certain nombre de malaises en Espagne, c'était très très compliqué. Donc, il s'est fait rapatrier pour se faire soigner aux États-Unis. Et là, très très vite, en un an, il était mort. Donc, il n'a jamais pu revenir à Cuba. Mais à l'origine, il voulait revenir à Cuba. Et par la suite, donc, Mary Welsh, sa dernière femme, donc. A pu revenir à Cuba, récupérer certaines choses, mais très très vite, la maison, le bateau, tout ça, a été nationalisé, je ne sais pas comment appeler ça, c'est devenu propriété de l'État cubain, et c'est à partir de là, alors que le régime castriste a complètement utilisé, évidemment, l'image d'Hemingway.
Il fait un peu partie d'un patrimoine de l'île que l'on vend aux touristes.
Totalement. Mais vous savez que la maison, en réalité, vous ne pouvez pas rentrer dans la maison. Il se trouve que j'ai une dérogation pour rentrer dans la maison, pour écrire mes livres, mais c'était très très compliqué, et j'étais suivi par une femme soldat de l'armée en treillis, et à chaque fois que je me baissais pour essayer de m'approcher, parce qu'il y avait une discothèque notamment, et ça m'intéressait beaucoup, me dire au fond qu'est-ce qu'écoutait Hemingway. Et alors il y a des choses intéressantes, et on voit qu'il écoutait par exemple Art Tatum, où il y avait Edith Piaf, enfin des choses comme ça. Donc lui, pour moi écrivain, c'est intéressant de voir ce qui est. Et à chaque fois que je me baissais, que je m'en rapprochais, non est-ce possible, Seigneur? Seigneur, non est-ce possible? Et alors bon, l'air de dire, vous êtes déjà, on vous autorise à rentrer, mais s'il vous plaît, bon. Mais c'est très émouvant parce que comme les conditions dans lesquelles il est parti, tout est resté dans l'état. Et à l'époque où j'ai visité cette maison, il y avait un jardinier qui était là, et c'était très troublant, parce que je vous assure, c'était pas du tout, un figurant. Mais il se trouve que le jardinier, pour moi, c'était un sosie d'Hemingway. Et en me promenant dans cette maison, parfois par une fenêtre, je le voyais passer, et je me disais, c'est...
Un fantôme.
C'est un fantôme. Mmh. Et il y a quelque chose de cela quand vous voyez cette maison. Parce que les bouteilles de whisky sont là, certains tableaux, les livres. Vous allez dans la salle de bain. Alors, il avait l'habitude, il était obsédé par sa santé, qui se dégradait au fil des années. Donc, il notait, il écrivait au crayon dans la salle de bain, son poids, sa tension, ainsi de suite. Et donc tout ça est noté. C'est très émouvant parce qu'il est encore là. Vous voyez, ses trophées accrochés comme ça sur des différents murs, les livres, la chambre d'amis. Enfin tout ça est le jardin, le bateau qui était rapatrié.
Le pilar
en fait, qui était un bateau qu'il avait acheté lorsqu'il était à Key West pour faire l'aller-retour. Entre l'hôtel Ambus Mundus à La Havane, la chambre 525, où il avait son amante. Et petit à petit, bon, il a fini par vivre à Cuba totalement. Et il a évidemment emmené avec lui le pilar. Et quand Hemingway est mort, en fait, le pilar est descendu au fond du port. C'est-à-dire, en fait, on l'a renfloué et on l'a mis maintenant dans le jardin. Et alors, c'est émouvant parce que c'est un bateau qui n'est pas très, très grand. Mais qui est en bois magnifique. Enfin, on voit très bien en fait tout ce qu'il a pu vivre sur ce bateau, où il s'asseyait, où était le fauteuil sur lequel il était harnaché, où il pêchait ses énormes poissons. Donc voilà, ça fait tout un les tombes de ses chats, de ses chats et de ses chiens, la piscine où ils ont, voilà.
Et que reste-t-il aujourd'hui à La Havane, à Cuba, de l'époque d'Hemingway?
Oh ben ça, c'est très triste. Il reste rien du tout. C'était alors. Moi, je ne suis pas allé à Cuba, disons, la dernière fois que je suis allé à Cuba, c'est à peu près 5-6 ans. Ce qui était très, très, très étonnant, c'est que les rues, les bâtiments, tout est là. C'est-à-dire que tout ce que décrit Hemingway, vous le retrouvez, mais dans un état de décrépitude avancée. Mais vous voyez exactement où il se déplaçait, comment il se déplaçait, le Floridita... La banque américaine, mais la banque américaine, vous posez une question à un agent de police qui est là, vous hésitez, vous dites, attendez, le bâtiment là, juste en face, c'était bien la banque américaine? Non, non, seigneur, il n'y a jamais eu de banque américaine à Cuba. D'accord. Donc, c'est pas la banque américaine. Bon, très bien. La grande librairie, là où il achète un de ses livres, bon, elle tombe en ruine, il n'y a plus rien, enfin, ainsi de suite. L'endroit où il achetait ses verres de rhum, tout ça est encore comme ça, mais dans un état de lamentable. La route aussi qui menait à la finca, enfin, le Corrimar, le port. Alors, on vous montre l'endroit où Fuentes, son fameux pêcheur était là. Moi, je l'ai rencontré quand je suis allé, il était encore vivant. Et alors, vous vouliez parler avec lui, il vous demandait quelques dollars. Et en échange de quelques dollars, il vous racontait quelques histoires sur Hemingway. Mais c'est touchant parce que, à la fois, vous êtes touriste et pas touriste, dans mon cas. Mais vous vous dites, bon, il a connu Hemingway, il est allé pêcher avec Hemingway. À l'époque, il avait plus de 100 ans, le Fuentes en question. Donc voilà, c'est quelque chose qui reste, mais qui tombe un peu en ruine. Alors maintenant, je sais pas quelle sera la suite de l'évolution de la vie de Cuba, mais enfin, on peut craindre le pire. C'est-à-dire que si tout est restauré à l'identique, très bien. Si les promoteurs immobiliers qui rasent tout pour mettre des immeubles à la place, bon, il ne resterait plus rien du Cuba d'Hemingway.
Après les livres que vous avez consacrés à Hemingway, vous signez une pièce sur cet écrivain, une pièce qui porte d'ailleurs, je crois, le même titre que l'un de vos livres, Hemingway à Cuba. De quoi s'agit-il et comment avez-vous choisi d'aborder le très vaste sujet Hemingway ?
Alors, il y a un moment de la vie d'Hemingway qui m'intéresse beaucoup, qui n'a pas été tellement abordé, c'est le moment où il quitte Cuba, entre le moment où il quitte Cuba et le moment où il se suicide. C'est une période très très triste de sa vie, il a du mal à écrire, il fait deux séjours en asile psychiatrique, électrochocs, des séances d'électrochocs absolument terribles. Il y a des pages où il décrit ces séances d'électrochocs, c'est absolument horrible. Et puis, la présence, là, alors j'en suis vraiment persuadé, la présence du FBI, c'est quelqu'un qui est surveillé. Et on le sait maintenant. Alors,
on l'a dit paranoïaque, mais c'était
oui,
une réalité.
Il y a un peu des deux. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il est un peu paranoïaque. Mais on le saura moins quand même quand il y a un certain nombre de preuves qui s'accumulent. Lorsqu'il est dans une de ses hôpitaux et qu'il subit des séances d'électrochocs, il s'aperçoit tout simplement que les médecins, le FBI est tout à fait au courant. Il est venu là sous un faux nom, mais le FBI lui fait comprendre qu'il sait qu'il est là. Lorsqu'il va déjeuner dans certains restaurants, on voit très bien qu'il est suivi. Il est mis sur écoute, son courrier est ouvert. Ça, c'est pas de la paranoïa. Alors, que ça devienne de la paranoïa, c'est vrai, il y a un épisode, par exemple, où il rentre chez lui, tout à coup, il s'arrête et il montre à sa femme une banque. Et il lui dit, tu vois, les gens qui sont en train qui sont debout là, les ombres, sont en train de vérifier mes comptes parce qu'ils veulent me mettre en prison. Bon, ça c'est sans doute de la paranoïa. Mais lorsqu'il va dans un restaurant et qui s'aperçoit que ça fait 3-4 fois qu'il voit le même bonhomme qui visiblement, comment dire, est quelqu'un du FBI, là c'est pas de la paranoïa. Et je crois que mais ça dure depuis la guerre d'Espagne, hein, puisque depuis la guerre d'Espagne, on le surveille tout simplement parce que il a aidé les républicains à acheter des ambulances. Il a fait certaines déclarations à la presse, dans les journaux. Alors c'est vrai qu'il est allé un peu fort, mais moi ça me plaît beaucoup. Il dit par exemple que le FBI c'est la Gestapo et que Hoover c'est Hitler. Alors évidemment que ça va pas plaire, mais je trouve que ça c'est bien. Ça c'est vraiment, je veux dire, c'est on ne peut que l'aimer quand il dit des choses comme ça. Où il dit oui, de toute façon le FBI c'est un peu comme les vers à bois qui rongent les poutres. Ça va foutre l'Amérique par terre. Mais on l'adore, quoi. Voilà. Donc la pièce c'est sur ça, c'est-à-dire sur cette fin de vie un peu triste, mais en même temps jusqu'au bout. Il essaie d'écrire, il se bagarre et puis il écrit quand même un certain nombre de d'articles, il finit des livres, il arrive à finir Paris est une fête dans ces conditions-là. Voilà, c'est une pièce sur cet aspect peu connu de la vie d'Hemingway.
Mais il y a aussi un roman à venir sur ce même sujet, si je comprends.
Exactement, c'est ça. Oui, comme je trouvais qu'une pièce n'était pas assez que je... Non, ça m'a donné en fait des... Oui, la pièce m'a donné envie d'écrire un livre, d'écrire un roman, de développer en fait, à la fois de voir sur scène des comédiens qui incarnaient en fait le personnage, qui se déplaçaient, mais quelque chose d'un peu éphémère, une pièce est éphémère, et en même temps d'en faire une sorte de produit dérivé, je ne sais pas si on appelle ça comme ça, qui serait un livre où là vous pouvez davantage vous prendre votre temps, être dans l'écriture et ce n'est plus dans la représentation, c'est plus dans la réflexion sur au moyen de phrases, dans un objet qu'on referme ou qu'on ouvre qui s'appelle un livre.
Vous écrivez que chez Hemingway, le mythe de l'invincibilité physique est la légende trompeuse derrière laquelle se cache un Hemingway stoïcien, la victoire dans la défaite.
Oui, mais je crois qu'on en a déjà un petit peu parlé. C'est-à-dire qu'en fait, tous ces personnages sont des vaincus magnifiques. Et lui-même, quelque part, est un vaincu magnifique. Et c'est ça qui donne aussi une dimension absolument passionnante à sa littérature. C'est-à-dire une littérature de vainqueurs. Les vainqueurs sont ennuyeux, en fait. Je trouve que les vainqueurs sont ennuyeux. Et là, ces défaites permanentes, rendent sa littérature grande. Oui, c'est ça, voilà. Oui, c'est une littérature de vaincus. Ça plairait beaucoup à Jean-Marie Rouard, qui a beaucoup écrit sur les vaincus.
Merci Gérard de Cortanze. Nous retrouverons dans 2h30, juste avant la fin de cette première nuit consacrée à Ernest Hemingway. Après avoir écouté, dans un instant, Au-delà du fleuve et sous les arbres, avec Philippe Soler, ce troisième de la série des chemins de la connaissance que Jean-Dève consacrait à Hemingway en 85. Bar Hemingway, un numéro de bouche à oreille, proposé par René Elkaïm-Bollinger en 2005. Une vie, une œuvre, Martha Gellhorn, racontait la guerre toute sa vie, par Pauline Maucor en 2016. Et enfin, Tribune des critiques, Ernest Hemingway par Pierre Barbier en 1966. La première nuit Ernest Hemingway se poursuit avec les archives sur France Culture.